Aujourd'hui donc, j'ai le plaisir de vous présenter Michel Perrault. Michel Perrault est historienne et professeure émérite de l'Université Paris 7 Denis Diderot. Parmi ses spécialités, elle a effectué des recherches sur le monde du travail et le monde ouvrier, sur l'histoire de l'indélinquance et des systèmes répressifs, sur l'histoire de la vie privée et sur l'histoire des femmes. Elle a été vice-présidente du Conseil national du SIDA et elle est membre de l'Observatoire de la parité. Elle a publié sur de nombreux thèmes, de nombreux articles, mais également de nombreux ouvrages. Et je mentionnerai les trois derniers. Elle a donc co-dirigé avec Georges Duby l'Histoire des femmes en Occident. C'est un ouvrage qui fait 5 volumes et qui est sorti entre 1991 et 1992 aux éditions Plon. Elle a publié en 1997 Femmes publiques aux éditions Textuelles et son dernier ouvrage Les femmes ou le silence de l'histoire en 1998 aux éditions Flammarion. Voilà, Michel Perrault, je vous laisse donc la parole pour 50 minutes. Après quoi, nous aurons un débat avec le public de 20 minutes. Je vous remercie.
Merci à vous de cette présentation. Merci au CNAM de nous accueillir pour cette conférence de l'Université de tous les savoirs. Merci surtout à vous d'être là un samedi de Pâques. Je vous trouve héroïque. Mais enfin, il fait gris dehors. On va essayer de mettre un petit peu de soleil ici. L'histoire saisie par le genre. Voilà un intitulé qui sonne comme un rapt. Il évoque Clio, enlevée par Zeus Jupiter, les Sabines, enlevées par les Romains. Cette métaphore quasi guerrière serait un contresens. L'histoire n'est pas féminine. L'histoire est un récit qui, au contraire, longtemps a ignoré les femmes. Et le genre n'est pas masculin. Il désigne la différence des sexes. Le processus de prise en compte des femmes et de la différence des sexes par un récit historique qui les ignorait, tel est mon propos. Quand, pourquoi, comment s'est développé ce champ de recherche nouveau qui s'appelle « Histoire des femmes, histoire du genre ». Quelle signification, quelles limites, quels effets ? Il s'agit d'un processus récent qui date du dernier quart de siècle et rapide, mais non pas brutal, et qui rencontre aujourd'hui encore bien des résistances parce qu'il touche à l'organisation des savoirs et des pouvoirs et à l'ordre symbolique du monde. C'est à cette excursion historiographique, je vous rappelle que l'historiographie, c'est l'histoire de l'histoire, que je vous invite, non sans avoir au préalable défini le sens des mots. Je rappellerai que nous, Français, nous n'avons pas beaucoup de chance parce que le mot « histoire » désigne deux choses. Ce qui se passe, ce que nos amis anglais, américains appellent « story », et le récit qu'on en fait. « History », « history », ce n'est pas la même chose. Entre les deux niveaux solidaires mais non confondus, il y a l'historien, l'historienne, qui construit le récit à partir des traces qu'il cherche et qu'il trouve, s'il les cherche, d'où l'importance du regard. L'historien, l'historienne sont des médiateurs qui travaillent en fonction de leur appartenance sociale, temporelle, intellectuelle, sexuelle. Cette subjectivité de l'historien et de l'historienne n'est pas un obstacle, mais au contraire un levier pour comprendre le monde, et on ne saurait bien sûr la confondre avec la partialité. Je voudrais d'abord mesurer le poids du silence, puis évoquer comment ce silence a été levé, et enfin montrer les débats, les effets et les problèmes que tout ce que je vais évoquer suggère. Car bien entendu, je ne me présente pas ici avec une parole dogmatique. Vous imaginez bien que je sais que tout ce que je vais vous dire pose question et qu'il faut en débattre. Tout pose débat et j'espère que nous aurons un débat. D'abord, le poids du silence. Il importe d'abord de prendre la mesure du silence qui pèse sur les femmes et sur le genre, de l'obscurité qui les enveloppe comme un voile, presque comme un linceul. Elle seulement, non. L'oubli est le sort commun. Il recouvre des millions, des milliards de vies enfouies dont nous ne serons jamais rien, dont nous ne pourrons rien savoir parce qu'il n'en existe pas de traces ou qu'on ne se soucie pas de les chercher. L'oubli est le sort commun, peut-être la condition même de la vie, mais il en est de plus profond que d'autres. Oubli des pauvres sans famille, oubli des peuples vaincus dont on détruit systématiquement les traces. L'oubli des femmes, toutefois, est particulier, spécifique. Il exprime leur place en ce monde longtemps minoré. Cet oubli tient à plusieurs raisons. Il existe à plusieurs niveaux qui se recouvrent comme autant de silences emboîtés et dont je voudrais évoquer. Cela tient d'abord au silence des femmes dans l'histoire, qui est liée à leur invisibilité dans l'espace public. Invisibilité de fait, on les voit moins, puisqu'elles sont la plupart du temps, dans beaucoup de cultures, recluses au privé, à la maison, à ce qu'on ne regarde pas. Invisibilité érigée en principe comme essence même de la féminité. Pythagore, une femme en public est toujours déplacée. Si elles y paraissent, on les nie, on les gomme, surtout lorsqu'il s'agit d'événements politiques où elles ne devraient pas être, ou de créations auxquelles elles ne sauraient concourir. Et on observe très souvent comment leur place est gommée dans une création, par exemple dans les couples de musiciens notamment, ou de peintres. Les écrivains, c'est moins vrai. Il y a souvent un effacement de celle qui aurait pu peut-être développer son talent. Deuxième niveau, la faiblesse des traces laissées par les femmes. D'abord, par défaut d'enregistrement. Songez à la transmission du nom, elle est masculine. Les démographes, il y a quelques années, ont voulu faire une enquête qu'on a appelée l'enquête TRA, c'est-à-dire prendre tous les noms, commençant par TRA, pour reconstituer les lignées à travers l'état civil qui, comme vous le savez, religieux d'abord, remonte au XVIe siècle. Eh bien, très sagement, parce qu'ils ne pouvaient pas faire autrement, les démographes ont exclu les lignées féminines, puisqu'ils ne pouvaient pas les retrouver, la femme abandonnant son nom au moment du mariage. Donc, on voit par cet exemple que les femmes, les traces sont cachées, en quelque sorte. Autre exemple, les statistiques et les agrégats, la plupart du temps, ils sont neutres et dissimulent les femmes. Par exemple, les femmes rurales au XIXe, on parle de chefs d'exploitation au masculin pluriel ou singulier, mais il y a des femmes au milieu d'elles. On parle des domestiques sans mentionner s'ils sont masculins ou féminins. De même, quand il y a des grèves mixtes, on dit « il », et il peut y avoir des « elles », et il y en a même beaucoup dans les grèves mixtes. Par conséquent, il y a là un véritable problème d'enregistrement des actions des femmes. Et puis, faiblesse des traces aussi, par défaut de la conservation des traces. Peu d'archives, peu de collections ou de bibliothèques de femmes. À Paris, citons la très célèbre bibliothèque Marguerite Durand, qui, après avoir été dans la mairie du 5e, se trouve maintenant rue Nationale. Mais elle est presque seule. Aux États-Unis, il y en a, bien sûr, davantage. Défaut de conservation encore, par autodestruction de leurs traces par les femmes elles-mêmes. Mues qu'elles sont par ce sentiment de pudeur ou d'insignifiance qui les dévalorise à leurs propres yeux. « Je n'ai rien fait », disent-elles, même quand elles ont fait de la résistance, par exemple. « Ma vie, je n'ai rien à dire, ce n'est pas intéressant. » Et c'est souvent un obstacle que rencontrent les enquêteurs quand ils font de l'histoire orale auprès des femmes. Cette faiblesse des traces, par conséquent, pose un réel problème de source, comme disent les historiens. Et cette faiblesse des sources contraste avec l'avalanche des discours, des représentations, des mots et des images qui concernent les femmes. D'elles, il est tant parlé. Bien sûr, on parle d'elles. Bien sûr, on les représente. Et pensez aux images, aux tableaux, où elles sont envahissantes, saisies par le regard des hommes la plupart du temps, et livrant surtout les représentations, parfois les fantasmes des hommes. Toutefois, la densité des traces laissées change avec le temps, en fonction de l'accès des femmes au mode d'expression, de leur prise de possession de la parole, de l'écriture, de l'image. Et cette densité croissante des traces au sol, en quelque sorte, et dans le sous-sol, dessine la trajectoire de leur histoire même. On pourrait dire que l'histoire des femmes, ou l'histoire des minorités sexuelles, dont je parlerai naturellement, est l'histoire de leur prise de parole, de leur avènement à leur parole au monde. Mais il y a encore une autre forme de silence. Ce sont les silences du récit. Ce récit qui est toute histoire. Je rappelle que l'histoire est un récit. Ce récit a longtemps privilégié l'espace public, les événements politiques, militaires, religieux, les règnes, les guerres, les conquêtes, les hauts faits des héros, les grands hommes. Aux grands hommes, la patrie reconnaissante, c'est ce qui a marqué sur le Panthéon, comme s'ils étaient seuls à avoir fait l'histoire. Toute chose qui, aujourd'hui encore, constitue la trame des chronologies de nos manuels scolaires. Surtout dans la culture occidentale, gréco-romaine et judéo-chrétienne, qui met les femmes hors jeu de la cité et de l'histoire, en assimilant la féminité à la passivité ou à la beauté qu'il convient de voiler. Il y a l'antithèse pensée des hommes, beauté des femmes. Ce silence sur les femmes s'étend à la différence des sexes comme facteur de changement. Au vrai, celui-ci, la différence des sexes, est perçu comme immuable, fondement d'une pensée symbolique qui se construit sur la dualité homme-femme et qui, la plupart du temps, assimile les femmes à la nature et à la passivité et les hommes à la culture, à l'action, à la création. Françoise Héritier, anthropologue célèbre, dans son livre « Masculin, féminin, la pensée de la différence » paru chez Odile Jacob en 1996, a montré qu'une telle représentation, ce qu'elle appelle la valence différentielle des sexes, on pourrait dire la valeur différentielle des sexes, est, selon elle, un quasi-invariant de l'ordre du monde. L'historien qui ne croit pas à l'invariant dirait jusqu'à présent, mais il souscrirait à l'opinion, à l'avis de Françoise Héritier, aussi loin que l'historien regarde dans le passé, il voit lui aussi cet ordre symbolique des sexes fondé sur la valence, la valeur différentielle, homme plus, femme moins. Rejetées vers la reproduction, les femmes sont ainsi hors jeu de la création, du changement et de l'histoire. La femme est en quelque sorte ahistorique. Et la différence des sexes n'est pas susceptible d'événements ni de récits. Or, ces conceptions d'une différence des sexes immuable et d'une femme immobile que l'on trouve dans la pensée philosophique antique ou dans les religions anciennes, les grandes religions monothéistes souscrivent à peu près à ce jugement, ont été renforcées plus proche de nous au XIXe siècle, au moment crucial où l'histoire, celle que je vous raconte, se constitue comme discipline scientifique, ou du moins académique, pour des raisons intellectuelles et politiques multiples. Au même moment, si vous regardez l'anthropologie, je citerai les grands noms de Morgan, de Barhoffen, auxquels se référeront Marx et Engels, qui ont été attentifs à cette question, eh bien cette anthropologie, elle est évolutionniste, c'est le grand siècle de l'évolutionnisme. Or, l'anthropologie, que je viens de citer, croit à un matriarcat originel, paisible et heureux. Au commencement étaient les femmes, nous disent ces anthropologues, mais c'était un monde heureux, mais immobile, où il ne se passait rien. Pour qu'il se passe quelque chose, pour que l'humanité enfin entre dans l'invention et dans l'histoire, il a fallu la prise du pouvoir des hommes par la violence et par la guerre, accoucheuse des sociétés, l'histoire enfin est entrée dans le monde. L'histoire est fille du verbe et de la virilité. Voilà ce que nous disent Morgan et Barhoffen au XIXe siècle. Eh bien, cette vision des choses anthropologiques convient parfaitement à la France du XIXe siècle. La Révolution française, celle des droits de l'homme, fait de la division sexuelle des tâches, des rôles et des espaces un principe de gouvernement, avec la théorie des sphères, le public et le privé. Le public pour les hommes, le politique au centre, comme un sanctuaire, le privé pour les femmes, dominées cependant par les hommes. Mais au cœur du privé, la famille, la maison, tâche des femmes. Et par conséquent, les femmes sont exclues du politique au nom de leur nature, qui n'en serait pas capable, mais aussi au nom de l'utilité sociale. Et l'histoire remplit de ces tumultes le récit historique qui se voue par conséquent à la célébration des grands hommes. Hommes de la Révolution, Robespierre, Saint-Just, soldats de l'Empire ou Bonaparte, sont les héros d'une citoyenneté construite sur le mode de la virilité, comme le sera plus tard à sa manière le mouvement ouvrier. Or, cette histoire virile est le fondement d'une identité nationale française, telle qu'aujourd'hui encore la présente la plupart de nos manuels d'histoire. Dans cette mâle épopée, peu de place pour les femmes, hormis quelques héroïnes, Jeanne d'Arc bien sûr, et quelques autres, mais au fond, les petites femmes auprès des grands hommes. Et l'œuvre de Michelet, grand historien du XIXe siècle, si nous l'examinions sous cet angle, serait très significatif. Quant à la différence des sexes, on considère qu'elle appartient à l'anthropologie, justement, et non pas à l'histoire. Sautons par-dessus le développement des écoles historiques et venons un instant à la célèbre école des Annales dont nous procédons tous. Marc Bloch, Lucien Febvre sont nos pères spirituels et après eux, Brodel et Labrousse. Eh bien, l'école des Annales, pourtant très critique vis-à-vis d'une histoire politique traditionnelle, ne se préoccupe pas de la différence des sexes en dépit de quelques velléités, cependant, de Lucien Febvre. L'histoire de l'école des Annales est par contre attentive à l'économique et au social, aux classes, aux catégories sociales, aux crises économiques, beaucoup plus qu'au sexe. Elle est quantitative, beaucoup plus qu'individuelle ou biographique. La biographie ne l'intéresse pas. Tel était le paysage historique légué par cette grande école autour des années 1970, ma génération, si l'on peut dire. Depuis, les choses ont changé. Le silence a été rompu. Pourquoi ? Comment ? Et c'est de ce silence brisé que je voudrais maintenant vous parler. Eh bien, pour toute une série de facteurs mêlés qui expliquent ce changement historiographique. Des facteurs scientifiques, des facteurs sociologiques, des facteurs politiques étroitement mêlés et que je ne distingue que pour l'exposition. Facteurs scientifiques. D'abord, des facteurs généraux. Il y a, à la hauteur des années 68-70, une crise de ce qu'on pourrait appeler les grands paradigmes explicatifs, le marxisme et le structuralisme, par exemple. Et cette crise favorise un renouvellement théorique et l'écoute d'autres hypothèses, d'autres voies. Facteur scientifique encore, la conscience vive que l'on prend dans ces années-là du fait que l'histoire est justement un récit, une construction, un rapport passé-présent où interfère légitimement la subjectivité du narrateur, mais où il faut savoir qu'interfère la subjectivité du narrateur et que par conséquent, le récit historique peut changer. Ici, le rôle de Paul Ricoeur, philosophe Paul Ricoeur, a été très important. Mais je pense aussi à l'œuvre d'un autre philosophe, les philosophes évidemment sont ici essentiels, à l'œuvre de Michel Foucault. Par sa critique de l'homme en général, de l'universel sur de ses valeurs, par son ouverture à d'autres objets de l'histoire, la folie, la prison, la sexualité justement, Foucault avait publié en 1976 le premier volume de ce qu'il voulait être une histoire de la sexualité et qui s'appelait « La volonté de savoir » et qui porte sur le XIXe siècle, série qu'il a interrompue et que je regrette évidemment qu'il ne l'ait pas faite, il était prévu un volume sur la femme hystérique. Oh combien je regrette ce volume sur la femme hystérique. Mais Foucault a retrouvé ce thème d'une autre manière en travaillant sur l'Antiquité et je vous en dirai un mot dans un instant. Foucault encore, par sa prise en compte de ce qu'il appelle les vies infâmes, les désordres intimes, mais sans employer jamais le mot, il n'en parle pas, la question du genre et de la différence des sexes au centre de sa réflexion qui est à la fois philosophique et historique. Voilà donc pour des aspects scientifiques généraux. Maintenant, il y a des aspects scientifiques plus particuliers à l'histoire. L'histoire elle-même se renouvelle beaucoup à ce moment-là. Elle renouvelle ses alliances. Par exemple, elle renoue avec une anthropologie qu'elle avait un petit peu délaissée. Elle construit une démographie historique. C'est la grande époque, enfin, ça avait commencé avant, de la démographie historique. Or, par ces nouvelles alliances, on retrouve une instance oubliée de l'histoire qui était la famille. C'est pas ? On parlait classe, catégorie sociale, mais au fond, on ne parlait pas famille. Et par celle-ci, le privé, l'enfant, pensez au beau livre de Philippe Ariès sur l'enfant et la vie de famille, publié dans les années, milieu des années 60, le couple, eh bien pourquoi pas les femmes, c'est pas ? Après tout. Et l'œuvre de Georges Duby, avec lequel j'ai eu le plaisir de diriger l'histoire des femmes en Occident, me paraît tout à fait significative. Georges Duby avait d'abord fait une thèse sur le Mâconnais, l'économie du Mâconnais. Et puis il a terminé sa carrière et sa vie, puisque vous savez qu'il est mort il y a déjà 2 ans, par les dames du XIIe siècle. C'est pas la même chose. Entre les deux, Duby avait pris conscience de cette question de la différence des sexes et de la famille, pas par féminisme, je ne le crois pas, même si nous pouvons, nous les femmes, penser qu'ensuite nous l'avons un petit peu converti au féminisme, mais tout simplement parce qu'il nouait avec l'anthropologie. Et un grand livre de Georges Duby, qui a été pour nous très important, « Le chevalier, la femme et le prêtre », publié chez Hachette en 81, où qui se termine ainsi, mais les femmes, on en parle beaucoup, que sait-on d'elles ? C'est pas l'historien qui a travaillé sur la famille et qui constate qu'on n'en sait rien. C'est pas Quel merveilleux appel à une histoire des femmes, et comme on comprend qu'ensuite nous ayons pu collaborer ensemble. En somme, au niveau des années 70, une pluridisciplinarité très inventive fait éclater l'histoire, multiplie les objets d'histoire. On a parfois parlé de crise de l'histoire. À mon sens, c'est en tout cas une chance que cette crise, cette nouvelle histoire, a été en effet un terreau propice à l'histoire des femmes. Raison scientifique, je viens de vous les montrer. Raison sociologique, j'irai un peu plus vite à cause du temps, mais c'est simple. Elles tiennent ces raisons à la présence des femmes à l'université, comme étudiantes et comme enseignantes, comme on dit. Étudiantes, au XIXe siècle, il n'y en avait pas. Quand on ouvre le Larousse au mot étudiante, qu'est-ce qu'on voit ? La compagne de l'étudiant. N'est-ce pas ? Bon, les premières étudiantes sont arrivées avant 1914, c'était souvent des étrangères, des juives même, qui étaient chassées par les pogroms de Russie et de Pologne et qui venaient poursuivre leurs études en France, point sur lesquels on pourra revenir si vous le souhaitez. Et puis les choses se sont normalisées et il y a eu enfin en 1924, enfin seulement en 1924, un baccalauréat unique pour les garçons et les filles, ce qui voulait dire une entrée égale des garçons et des filles à l'université. Et à ce moment-là, c'est l'âge des étudiantes qui commence, et cet âge grand, naturellement, j'en fais pas l'histoire, mais aujourd'hui, les filles sont 56% à l'université, avec évidemment de très grandes différences selon les filières, mais ce n'est pas aujourd'hui mon propos. Même changement du côté des enseignantes. Au point de départ, la femme professeure à l'université est, comme on le disait dans les années 1925, indésirable. La femme indésirable. Et la première qui a présenté sa candidature, c'était Geneviève Bianchis, une professeure d'allemand, valeureuse, une protestante par ailleurs, qui avait le meilleur dossier, incontestablement. Mais ces messieurs de la Sorbonne ont estimé qu'étant femme, elle n'aurait probablement pas un volume de voix suffisant pour se faire entendre d'un public masculin. Et sa candidature fut écartée. Elle a fait une carrière en province tout à fait honorable, mais elle ne fut jamais à la Sorbonne. La première femme à venir à la Sorbonne, c'est Marie-Jeanne Dury en 1947. N'est-ce pas ? Donc, la libération et après la Deuxième Guerre mondiale. Aujourd'hui, les femmes sont 33% d'enseignantes dans les universités et 13%, avec une inégalité entre maîtres de conf évidemment et professeurs, il y a 13% de femmes professeurs aujourd'hui, ce qui n'est pas la parité naturellement. Il y a encore beaucoup à faire. Voilà pour les facteurs sociologiques. Ça change quand même quelque chose qu'il y ait un renouvellement du public. Troisième série de facteurs, les facteurs politiques. Et bien sûr, c'est le rôle éclatant du mouvement de libération des femmes des années 1970. Le rôle de ce mouvement de libération des femmes, qui est un grand acteur de l'histoire et qui a beaucoup transformé l'histoire contemporaine, son rôle et sa préoccupation n'étaient pas d'écrire l'histoire. Il avait autre chose à faire. Mais il a eu sur l'histoire des effets multiples. D'abord, une quête justement de mémoire et de traces. Est-ce que nous avons eu, disaient les femmes qui militaient de cette époque, des ancêtres ? D'où venons-nous ? Est-ce qu'il y a eu des choses avant nous ? Et en quelque sorte est venue la quête des possibles. Et puis en même temps, il y avait une volonté d'intelligibilité, comprendre la place des femmes, leur exclusion, par exemple, du politique ou de la création, comprendre la nature des rapports entre les sexes. Et cela a même conduit, à certains moments, à une volonté de rupture épistémologique, c'était le mot qui était employé à l'époque, qu'on retrouve d'ailleurs, pas seulement en histoire alors, mais dans la plupart des sciences sociales et humaines. Car le bouillonnement des années 70-80 est intense sur le plan intellectuel et il touche toutes les disciplines, anthropologie, littérature, sociologie, etc., etc. Sans rentrer dans les épisodes d'une histoire tumultueuse, j'en rappellerai simplement les caractères intellectuels. La pluridisciplinarité, je crois en avoir déjà parlé. Les femmes, la différence des sexes sont des objets pluriels, d'où d'ailleurs leur difficulté à les inscrire dans l'université telle qu'elle existe, car l'université aime les disciplines tranchées. Alors, ce n'est pas toujours commode et il y a parfois bien des difficultés. Deuxième caractéristique, son caractère de réseau. Les femmes, n'ayant pas beaucoup d'organisations, notamment scientifiques, fonctionnaient en réseau. Dans ce réseau, le rôle des États-Unis a été très important, mais il ne faut pas cependant l'exagérer. Il y avait une pensée féministe française ancienne qu'il nous a fallu redécouvrir, et nous avons souvent redécouvert Simone de Beauvoir à travers les États-Unis, avec les allers et retours constants. Enfin, ambition du projet, intensité de débat, ça ne s'est pas fait nécessairement dans la douceur. Il y avait des débats violents entre les divers courants du féminisme, en gros, deux versants. Un versant essentialiste et différentialiste qui était plutôt lié à ce qu'on appelait à l'époque psychanalyse et politique, où l'on retrouvait surtout les littéraires et les psychanalystes, et qui insistait sur l'irréductible différence liée plutôt à une nature plutôt qu'à une culture. Et de l'autre côté, la majorité des sociologues et des historiennes, notamment universalistes, qui procèdent beaucoup plus de la pensée de Simone de Beauvoir et qui refusent l'idée de nature et voient dans la féminité et dans la différence des sexes un produit justement de la culture et de l'histoire. Depuis, avec le temps, ces différences se sont estompées et il y a des passerelles entre les deux. On pourra y revenir. Enfin, et c'est mon troisième et dernier point, je voudrais vous donner pour finir un panorama de cette histoire des femmes, histoire du genre, dans ses travaux et dans ses résultats et aussi dans ses effets. Alors, j'ai évoqué les sciences sociales et humaines en général, mais l'histoire dans tout cela, où était-elle? Eh bien, elle s'est frayée un chemin, non sans difficulté, mais favorisée tout de même par la pertinence d'une démarche relevant justement de l'historicité. Depuis le début des années 70, on peut dire qu'en une génération, 70-2000, ça fait 30 ans quand même, hein, le temps passe. Bon, eh bien, on peut dire que dans ces 30 ans, s'est construit un véritable champ de recherche autour des universités et de l'école des hautes études, du CNRS également, dont je parlerai surtout, grâce notamment aux thèses et aux très nombreuses maîtrises qui ont été faites dans les universités et auxquelles il faut rendre hommage. Ces travaux modestes, parfois obscurs, ont constitué une véritable accumulation primitive qui nous a été d'un grand secours. Il existe aujourd'hui une revue qui s'appelle Clio, revue d'histoire des femmes, et puis on a parlé de l'histoire des femmes en Occident, je ne pourrais pas m'y attarder, mais cet ouvrage est un ouvrage collectif qui a réuni 70 collaborateurs et qui est à l'heure actuelle traduit dans une quinzaine de langues. Autrement dit, il y a là un domaine relativement reconnu, même si on peut estimer qu'il ne jouit pas encore de la légitimité institutionnelle qu'il devrait avoir, ce qui est un problème pas pour les anciennes, mais pour les plus jeunes, qui ont parfois du mal à s'y faire leur place. Alors, je n'évoquerai pas le détail de ce qui a été pour beaucoup d'entre nous, je dis nous, je pourrais dire nous, et je pense à toutes mes amies et collègues avec lesquelles j'ai eu le bonheur de travailler, ça a été une aventure intellectuelle passionnante, auxquels beaucoup de gens ont été associés. Une aventure intellectuelle qui a eu le mérite pour nous de reconstituer à la fois plusieurs choses, un projet intellectuel justement, un projet politique et un projet existentiel. Parce que pour beaucoup d'entre nous, ça nous permettait de mieux nous comprendre nous-mêmes en tant que femmes et nos mères aussi. J'ai beaucoup mieux compris ma mère quand j'ai eu fait l'histoire des femmes. Alors, j'évoquerai simplement l'évolution des contenus, l'évolution des problématiques. Évolution des contenus, je résume. On est parti des femmes dans leurs rôles les plus traditionnels pour aller vers les femmes dans l'espace public. Voilà, en gros, comment ça a changé. On a, par exemple, on parlait d'abord de la maternité, de la prostitution, des femmes religieuses, de la ménagère. Et puis ensuite, on a parlé des femmes dans le travail, dans la ville, dans la politique, du féminisme, de l'histoire du féminisme. Mais les problématiques également ont changé. On est parti d'une histoire des représentations à une histoire beaucoup plus sociale, des pratiques sociales. On est allé d'une histoire des femmes victimes à une histoire des femmes actrices de leur destin. Et c'est ici qu'on a retrouvé tout le problème majeur de la question de la domination masculine et de l'éventuel consentement des femmes à leur rôle. Problème central qui a été en quelque sorte renouvelé par la publication, il y a 2 ans, en 98, du livre de Pierre Bourdieu, reprenant des travaux de Bourdieu beaucoup plus anciens, « La domination masculine ». Grand, on se réjouit de voir qu'un sociologue de l'envergure de Pierre Bourdieu prend la domination masculine comme objet de son travail, mais en même temps, ce fut très discuté. En effet, ça a été un objet de controverse. Bourdieu montre une domination se reproduisant sans cesse et faisant que les femmes dominées ne peuvent pas écrire leur histoire puisque justement elles sont dominées. Et évidemment, ce n'est pas quelque chose qui nous a emballés. Et nous avons contesté ce point de vue avec naturellement les armes de la courtoisie qu'il convient, car c'est en effet un très grand sujet et qui pose la question, encore une fois, du consentement éventuelle des femmes à leur rôle. Problème très difficile, je n'y insiste pas. Troisième évolution problématique, eh bien justement, on est allé des femmes au genre. Et c'est peut-être l'évolution théorique qui s'est révélée la plus riche. Certes, l'histoire des femmes s'était proclamée dès le départ. Et quand je relis nos textes des années 75, c'est une histoire résolument relationnelle qui a toujours refusé le ghetto de ce que pourrait être une pure histoire des femmes et revendiquant justement l'ambition de remodeler le questionnement historique. Mais enfin, la perspective du genre approfondie en collaboration avec les Américains, les Américains, a été en effet extrêmement riche. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est tout simplement, on pourrait reprendre Simone de Beauvoir, on ne naît pas femme, on le devient, on ne naît pas homme dans sa virilité, on le devient. Et tout cela est produit par la culture, les cultures et par l'histoire. Mais évidemment, ça amène à voir les choses tout à fait différemment. Le mot « genre » a eu évidemment des difficultés d'introduction en français. On dit même quelquefois souvent encore le « gender » à l'américaine, tout simplement parce que « genre » chez nous désigne la différence grammaticale. Et ça, ça a été un petit peu un obstacle. Mais dans les sciences humaines maintenant, eh bien, je crois que c'est tout à fait passé. Alors, quelles sont les conséquences d'une réflexion en termes de genre? Eh bien, c'est justement la remise en cause de l'idée de nature. C'est pas de nature. Qu'est-ce que la nature? Mais la nature est une invention du discours scientifique et notamment médical, notamment au XVIIIe et XIXe siècle, où ça a été tellement important. C'est également l'idée du genre, la critique du corps lui-même, l'idée que le corps sexué, qui naît avec une différence biologique, Eh bien, ce corps sexué est historique. Encore une fois, la biologie même du corps masculin ou du corps féminin ne se vit pas de la même manière dans l'Antiquité, au Moyen-Âge et aujourd'hui, avec, par exemple, les techniques, les PMA, les techniques de procréation médicalement assistée, qui représentent une révolution biologique considérable. Par conséquent, c'est une réflexion en termes de déconstruction. Réfléchir au fait que le langage lui-même, il faut probablement le déconstruire. Nous ne sommes pas d'ailleurs, nous en France, allés aussi loin que nos collègues américains qui ont adopté une position assez radicale, ce qu'on a appelé le « linguistic turn », en disant « tout n'est que langage et il ne faut travailler que sur le langage ». En France, la tradition d'histoire sociale est trop forte pour que nous ayons été jusque-là, peut-être avons-nous eu tort d'ailleurs, mais nous avons essayé de tenir les deux bouts de la chaîne. Alors, cela veut dire aussi que prendre le genre comme problématique, eh bien, c'est ouvrir d'autres perspectives que l'histoire des femmes. C'est justement s'interroger sur la virilité. Et il y a beaucoup de travaux aujourd'hui aux États-Unis et en France qui interrogent la virilité masculine en tant que création de la science, de l'histoire, etc. Les travaux de George Moss aux États-Unis, les travaux de David Halperin qui viennent d'être traduits en français, américain aussi. Et puis, du côté de la France, les travaux de Corbin, à certains égards, bien qu'il n'aborde peut-être pas directement ce problème, de Georges Vigarello, tout récemment, un livre d'André Roche qui s'appelle « Le premier sexe » qui vient tout juste de paraître et qui pose justement la question du premier sexe, les hommes en tant qu'hommes. Tous les travaux qui tournent autour de la guerre sont extrêmement riches également à cet égard. Et puis naturellement, et c'est mon dernier point, il va falloir ouvrir le débat, cela conduit à interroger également l'histoire des sexualités. Les travaux de David Halperin sont de ce point de vue extrêmement intéressants. L'hétérosexualité, nous dit-il, est une forme sexualité. Et elle a été construite. Elle a été construite notamment, dit-il, je le cite bien sûr, au XVIIIe et XIXe siècle, à la lumière, avec justement le développement de la science. Mais si l'on regarde du côté de l'Antiquité grecque, celle que Foucault avait justement étudiée dans l'usage des plaisirs et le souci de soi, on voit que la sexualité, elle est hétérosexuelle, surtout pour la reproduction, mais elle est très souvent homosexuelle, et pas uniquement pour des questions de plaisir. C'est au contraire pour une question de transmission des savoirs, ajoutons-le, entre hommes, pas les femmes étant tout de même exclues de cette cité grecque. Par conséquent, tout cela, l'histoire du genre, fonde à faire une histoire des sexualités, de l'homosexualité, de l'hétérosexualité, qui n'ont pas eu jusqu'à maintenant véritablement droit de cité. Mais les choses vont vite. Va paraître dans quelques jours, 15 jours je crois, au Seuil, un livre de Florence Tamagne, qui est une thèse soutenue à Sciences Po il y a 2 ans, et qui s'appelle « Histoire de l'homosexualité en Europe, 1900-1940 », un très beau livre où elle prend à la fois l'homosexualité masculine et féminine, les gays et les lesbiennes, comme nous dirions aujourd'hui, en comparant France, Allemagne et Grande-Bretagne. Ce n'est qu'un exemple d'une historiographie qui est en voie de renouvellement. Et je conclurai rapidement. L'histoire des femmes, née de leur rébellion contre le silence qui les enfermait et niait leur existence individuelle et collective comme agents de changement, née de leur rébellion contre des représentations et des pouvoirs qui les assignaient à la dépendance, s'est révélée critique d'un universel qui n'était la plupart du temps que masculin. Non pour le détruire, je me revendique de l'universel, mais pour le rendre réellement universel par l'inclusion des différences de tous ordres. L'histoire des femmes qui se veut scientifique et sérieuse entend ainsi également être une histoire engagée dans notre présent et contribuer à l'invention continuelle et sans cesse renouvelée de nos libertés.
Nous allons passer aux questions.
Oui. Voilà, merci de m'avoir écouté. Et alors maintenant, alors il faut vous dire une chose, c'est que là d'où je suis, je vois rien. S'il y a certainement beaucoup de visages amis, d'ailleurs vous êtes tous des visages amis, mais je ne peux saluer personne de toute façon car je ne vois rien. Donc il faudra que vous m'aidiez pour les prises de parole parce que je ne discerne personne.
Donc, j'ai une question.
Les lumières.
Je voudrais vous poser une question.
Levez-vous.
Vous n'avez pas mentionné du tout, je pense, la contraception. Et je me demande si justement l'éclatement dans les années 70 de l'histoire des femmes qui ont pu passer de la zone du privé, de la sphère du privé, comme vous avez dit, à la sphère du public, n'est pas dû au fait qu'elles ont pu justement contrôler leur procréation et avoir le champ libre pour s'occuper d'autre chose que du privé.
Je réponds au fur et à mesure ? Bien sûr. La question de la contraception est évidemment centrale dans cette histoire. Vous imaginez que je ne pouvais la développer, mais il est clair que quand j'ai parlé du mouvement de libération des femmes des années 70, comme moi et comme la plupart des gens ici, vous savez que c'était un mouvement qui parlait du corps des femmes. C'est ça la caractéristique du féminisme des années 70. C'est un mouvement qui revendiquait le droit à la contraception déjà acquis par la loi Neuwirth de 67, mais enfin si mal répandu, si mal connu, et puis qui revendiquait avec force le droit à l'avortement. Bien sûr que ça a été absolument capital dans une prise de conscience et une mobilisation des femmes qui osaient parler du plus intime en montrant justement que ce n'était pas éternel, qu'il y avait des choses qui changeait dans l'histoire. Et il est certain que la révolution contraceptive des années 70, pour aller vite, est une révolution. C'est vrai. Les femmes devenues maîtresses de leur contraception, il y a là un événement majeur dans une histoire des femmes et dans une histoire des rapports entre les sexes. C'est tout à fait évident, c'est tout à fait essentiel. Alors que ça ait libéré leur temps pour faire de l'histoire, ça je ne sais pas, mais en tout cas, la question posée, la victoire remportée, l'affirmation du fait que le corps est politique, en définitive, voilà bien un des thèmes majeurs et une des hypothèses majeures d'une histoire des femmes qui se veut aussi une histoire du genre, bien sûr.
Bonjour, Emmanuel Lesage, Démocratie Parité. Je voulais vous demander, par rapport à l'égalité, beaucoup d'entre nous, je suis là.
D'accord.
Je suis là. Par rapport à l'égalité, beaucoup d'entre nous pensent qu'on ne l'aura réellement que par la réintégration des femmes dans le champ du sacré. Vous n'avez pas évoqué cette question.
Il y a tellement de questions que je n'ai pas évoquées que... Voilà. Alors, la question du sacré est très, très importante. Vous avez entièrement raison de l'évoquer. Le sacré est peut-être ce qui résiste le plus aux femmes aujourd'hui. Et c'est souvent au nom du sacré, ce sacré dont les femmes ne seraient pas dignes. Et je pense que sur ce plan, les grandes religions monothéisme, judaïsme, christianisme et islam ont joué un rôle d'écart par rapport aux femmes. Le sacré dans ces religions, c'est l'homme. C'est quand même porté par l'homme. La réforme, avec le protestantisme, introduisant d'ailleurs une modulation dans cela. Oui, les femmes sont impures, elles sont dans ces pensées-là, exclues du sacré. Alors à partir du moment où la politique est quelque chose qui touche au sacré, et c'est le cas en France, la dimension du politique en France, elle est assez spécifique. Il y a là une singularité française, comme on dit parfois, comme a écrit Mona Ouzouf dans un de ses livres, c'est qu'il y a un lien entre le sacré et le politique. Le sacre du citoyen, a écrit Pierre Rosanvallon dans un de ses livres. On sacrifie le roi, on met le citoyen à la place. Il y a eu ce baptême du sang, en quelque sorte, qui est presque un rite sacré. Et alors, à partir de cette histoire dramatique qui est la conquête du politique dans la Révolution française, eh bien, les femmes n'en sont pas dignes, elles n'en sont pas capables. C'est une affaire de grands hommes. Et à partir de là, la politique se construit comme un monde d'hommes, un exercice d'hommes, une pratique d'hommes, dans la parole, dans le travail, dans le look même, on pourrait dire, hein, dans la présentation de soi, et qui fait que quand les femmes apparaissent dans l'ère politique, c'est comme si la frivolité, l'insignifiance arrivait dans le politique. Donc on rejoint profondément le thème du sacré, je crois que vous avez raison, le thème du sacré est très important. Mais en dehors même de la politique, je pense que le sacré, en dehors de toute politique, est certainement quelque chose qui est l'avenir des femmes. Le rapport entre les sexes dans le sacré, c'est quelque chose qui nous attend, enfin qui vous attend, et puis nos descendants, dans le troisième millénaire. Et ça sera le plus difficile. Ça sera le plus difficile. Prenons un exemple très simple. Est-ce que c'est demain qu'il va y avoir une femme pape ? C'est pas sûr. Alors, peut-être que c'est, après tout, on n'a peut-être pas envie d'être pape, hein. Ça, c'est autre chose. Mais pourquoi est-ce qu'une femme ne pourrait pas être pape ? Pourquoi ? Eh bien, elle ne peut pas parce qu'elle est femme. Et qu'étant femme, elle ne peut pas participer à ce sacré suprême et à ce pouvoir suprême. Très important.
Une question là au milieu. Levez-vous, monsieur, s'il vous plaît, au milieu de l'amphithéâtre.
Oui, madame, professeur, on lit ce que vous avez écrit avec le professeur Duby avec passion. Je voulais vous demander pourquoi sur le fronton du Panthéon aux grands hommes, pourquoi quelque part vous personnellement ou le mouvement des féminines ne revendique pas que l'on change l'inscription. Je sais, pardon madame, je sais qu'il y a déjà deux femmes au Panthéon sous les 71, Berthelot et Curie. La première pour son mari, la seconde pour sa propre valeur. Après tout, pourquoi vous ne posez pas ce problème, bousculer quelque peu les hommes? Vous savez, quand on a fait le parité, M. Druon, a pleuré pendant 2 mois jusqu'à tomber malade et parti à la retraite. Après tout.
Monsieur, merci de votre vif encouragement à faire que le Panthéon soit aux grands hommes et aux grandes femmes, aux hommes et aux femmes, je dirais, hein, la patrie reconnaissante. Alors bon, pour parler, il y a eu des manifestations pour cela, et plus timidement, parce que c'est vrai qu'au fond, on est toujours un peu timide, nous les femmes, dans nos revendications, on n'est pas violentes dans le fond du tout. Hein. Eh bien, on a parlé pour Olympe de Gouges. On aurait voulu quand même qu'Olympe de Gouges puisse être quelque part au Panthéon. Bon, voilà. On va de temps en temps manifester devant le Panthéon au nom d'Olympe de Gouges. Il faut dire qu'enfin, il y a rue Servan-Denis. C'est une petite victoire, une plaque Olympe de Gouges, et merveille, je vais vous raconter une histoire car elle est très belle. La rue Servan-Denis est une petite rue très jolie qui va de la rue de Vaugirard à la place Saint-Sulpice. Cette rue était évidemment, à l'époque de la Révolution française, dans un quartier très chaud. Et dans cette rue, depuis longtemps, il y avait une plaque sur la droite quand on descend la rue, à Condorcet, parce que Condorcet a vécu là les derniers moments de sa vie. Il était poursuivi par la Révolution et il a écrit dans ce lieu où il se cachait « Esquisse pour les progrès de l'esprit humain ». Et puis dénoncé, il est parti et il est mort dans une histoire fort bien triste, dans un commissariat des environs de Paris où il n'avait à peine été reconnu, où il est mort de froid, des amis ne l'ayant pas accueilli. Condorcet, grand homme qui était pour les femmes. Et de l'autre côté de la rue, depuis 2 ans, et je n'y suis pour rien, donc j'en parle avec émerveillement, il y a une plaque, Olympe de Gouges, auteur de la Déclaration de la femme et de la citoyenne, 1792. Extraordinaire. Presque vis-à-vis Condorcet et Olympe de Gouges. Et vous vous souvenez de la chanson ? De l'autre côté de la rue, il y a une fille.
J'ai une question tout en haut de l'amphil.
Oui, bonjour, je m'appelle Eric Ménard, je suis professeur à l'UFM. Enfin, je suis professeur d'UFM. Ça prolonge en fait ma question, prolonge l'intervention du monsieur précédent. Vous avez souvent, à plusieurs reprises, évoqué la question des manuels scolaires. Suzanne Citron a critiqué les manuels scolaires de la Troisième République du type Petit Lavis, qui sont effectivement sexistes, incontestablement, colonialistes aussi. La question qui se pose aujourd'hui dans l'enseignement, je pense notamment à l'enseignement pour les enfants les plus jeunes, c'est-à-dire à l'école élémentaire, les enfants qui ont 8-10 ans, éventuellement aussi pour les collégiens. Est-ce qu'il est nécessaire, personnellement c'est ma position, mais peu importe, est-ce qu'il est nécessaire de repenser un panthéon universel ? Je parle là des manuels scolaires, ou est-ce que c'est-à-dire où il y aurait à la fois des grandes femmes et des grands hommes, ce qui ne veut pas dire qu'on est sur l'histoire sociale, mais c'est le problème de l'identification aussi qui est posé. Donc est-ce qu'il serait nécessaire de penser ce type de panthéon universel, donc incluant inévitablement le féminin, ou est-ce que c'est le principe même d'une histoire enseignée qui prendrait comme postulat qu'il ait besoin de mettre en avant des héros et des héroïnes qui est en question ?
Alors, votre question est très importante, intéressante et difficile. Je dirais d'abord qu'il y a à l'heure actuelle des tentatives pour changer les choses de plusieurs côtés. Je n'en citerai que comme ça quelques-unes au passage. Du côté de l'Académie universelle des cultures que préside Elie Wiesel, Umberto Eco, grand homme, il n'est pas au Panthéon, enfin, ça peut venir, a lancé un manuel interactif sur le web pour justement autour du thème de la tolérance. Et nous sommes quelques-unes en charge pour rédiger la question de la différence des sexes. Avec Françoise Héritier, avec Françoise Barré-Ducrot et quelques autres, nous y travaillons, ce n'est pas absolument évident, mais enfin, vous voyez, on y pense par conséquent, donc il y a cela. Deuxièmement, le Conseil national des programmes, qui est un organisme près du ministère de l'Éducation nationale, mais indépendant, que préside Luc Ferry, a mis à son programme faire quelque chose pour que les femmes soient plus présentes dans les programmes, justement, du primaire et du secondaire. Et puis, il y a des efforts privés, si j'ose dire. J'ai été récemment contactée par une jeune éditrice qui voudrait que, à plusieurs, nous entreprenions un dialogue avec des enfants du primaire pour voir un petit peu comment on pourrait faire passer des choses simples dans le domaine du rapport masculin-féminin, etc. Alors, ça, c'était pour vous dire, il se passe des choses, enfin, il se passe des choses dans ce domaine-là. Maintenant, faut-il faire un panthéon, ajouter des noms ? Oui, sans doute, oui, sans doute. Il est scandaleux que George Sand, je crois que maintenant, elle est quand même un peu citée. Et pendant longtemps, elle ne l'était pas, n'est-ce pas ? Parce qu'elle était considérée comme un auteur fadasse, alors que c'est un des plus grands écrivains, si vous voulez, du XIXe siècle. Donc, je crois que, oui, il faut introduire des noms, sûrement. Les noms, ça marque. Mais c'est peut-être autre chose. C'est introduire la pensée de la différence des sexes, justement. On enseigne le Moyen-Âge à des enfants. Eh bien, où étaient les femmes? Qu'est-ce qu'elles faisaient? Où étaient les petites filles? Le droit de cuissage, est-ce que ça existait? Qu'est-ce que ça voulait dire? Peut-on leur expliquer ça? Oui, sans doute, probablement. Mais quand on va dans des classes plus élevées, on peut évidemment être plus explicite. Je verrais cela plus comme un renouvellement de la problématique que comme des ajouts à des programmes dont nous savons bien qu'ils sont chargés et surchargés et qu'on nous demande, on demande par ailleurs de les alléger. Donc voilà, mais il y a toute une réflexion à faire. Et ceci dit, je suis relativement optimiste parce que je trouve qu'il y a de plus en plus de demandes qui se font de la part des professeurs du collège et du lycée de ce point de vue. Et ça, c'est vraiment formidable.
Je voulais parler, vous poser des questions au sujet des femmes et du pouvoir, parce qu'enfin, c'est souvent cela dont il s'agit. Dans le passé, on connaît par l'histoire classique qu'il y a de grandes exceptions à ce que vous avez dit. En ce sens, bon, on peut parler de Cléopâtre, de Catherine II, d'Élisabeth, de Victoria, etc. Est-ce qu'il y a une explication commune à ces exceptions? C'est ma première question concernant le pouvoir. D'autre part, est-ce que les femmes ont un pouvoir caché réellement beaucoup plus important qu'il n'apparaît dans l'histoire classique, en ce sens que, en séparant public d'un côté et privé de l'autre, bien souvent il est possible qu'il y ait des translations, c'est-à-dire que la vie privée des gens influe sur leurs idées et sur leurs actions dans le public. Et en particulier, le pouvoir des femmes, lorsqu'elles s'occupaient des enfants de façon, on peut dire, unique, avait, de par ce fait, un pouvoir très important. Et enfin, pour terminer, mais toujours sur le pouvoir des femmes, est-ce que finalement, l'état de fait que vous avez décrit ne vient pas d'une peur des hommes? Et en particulier, dans le domaine politique et religieux, il semblerait que souvent, c'est la peur de la femme, et justement de la peur du pouvoir de la femme, qui est placée des cotations de valeur.
Beaucoup de questions, monsieur. D'abord, vous avez évoqué les reines, et vous avez cité des reines d'Angleterre surtout. Il y a là un problème politique qui est la fameuse loi Salique, dont l'histoire est très compliquée, qui a été surtout réhabilitée, renouvelée au XIVe siècle par les juristes français, et qui excluait les femmes du trône en France, ce qui n'existe pas dans le droit anglais. Il n'y a aucun problème en Angleterre pour que les femmes deviennent reines. En France, elles ne peuvent être que régentes. Et encore, la régence est considérée la plupart du temps comme une catastrophe. Un historien comme Michelet, qui aime les femmes, mais qui les aime dans le privé et dans leur rôle habituel, dit surtout que les femmes n'aillent pas dans la politique. Et d'ailleurs, vous voyez bien, quand les femmes sont dans la politique, c'est terrible. Catherine de Médicis. Eh bien, Catherine de Médicis, elle est superstitieuse, elle a tous ces Italiens autour d'elle qui lui racontent n'importe quoi. Elle est autoritaire, alors ses fils sont devenus homosexuels. Or, Michelet, il n'aime pas l'homosexualité, il aime l'hétérosexualité. Bon. Et puis, dit-il, la cruauté, la Saint-Barthélemy. Autrement dit, dit-il, voilà le modèle, le pire. Mais quand même, c'est toujours un petit peu ce qui se passe quand les femmes prennent le pouvoir. Donc, il y a une pensée française et une législation française qui a exclu les femmes du pouvoir de la reine. Je signale au passage qu'un livre de Fanny Cotandet vient de sortir sur les reines de France, qui est tout à fait intéressant et qui montre qu'elles ont eu quand même, en effet, un rôle. D'où, ça me met à votre deuxième question, les femmes et leur pouvoir. Mais bien sûr que les femmes ont eu du pouvoir. Elles ne sont pas assez bêtes pour ne pas avoir cherché à en avoir, c'est pas naturellement. Les femmes mises dans une situation de dépendance, car malgré tout la domination masculine est bien ce qui a structuré les sociétés du passé et même très récentes, elles ont en effet essayé de construire des contre-pouvoirs Alors, ces contre-pouvoirs, ce sont souvent des pouvoirs de l'ombre, de la rue, c'est vrai, dans la famille, par les rôles qui leur sont laissés, et naturellement qui peuvent aller très loin. Et il est probable même que c'est de là qu'est née la peur des hommes. La peur de ce pouvoir des femmes tapies dans l'ombre, et dont après tout on ne sait pas trop ce qu'elles mijotent entre elles. Autrement dit, les hommes ont fabriqué eux-mêmes la peur qu'ils ont des femmes. J'exagère un peu, mais enfin. Car je crois que vous avez raison. D'abord, premièrement, ce système de pouvoir tranché privé-public, il est nocif pour tout le monde, parce que le pouvoir excessif de la mère, le pouvoir matriarcal qui fait que certains hommes ont été en effet complètement dominés par leur mère avec un père absent, qui fait que certains maris n'osaient plus pénétrer chez eux avec une femme omniprésente, ça n'était au fond que le revers de cette médaille. Et c'est pourquoi un équilibre privé-public, de meilleur partage entre les hommes et les femmes dans le privé comme dans le public comme dans le privé, me paraît une des clés de l'harmonie et d'une meilleure entente entre les deux. Il ne faut pas oublier les paroles de Gide, n'est-ce pas, ou de Breton, d'André Breton, sur les mères, n'est-ce pas, cette puissance maléfique de l'ombre qui le terrifiait. Et alors, oui, les hommes ont peur des femmes, c'est vrai, n'est-ce pas ? Les hommes ont peur des femmes. Il y a effectivement une longue peur des femmes qu'éprouvent les hommes, qui remontent très très loin. Les Amazones, par exemple. Les Amazones, il y a eu beaucoup de discussions pour savoir si c'était un mythe ou une réalité. Bon, tous les historiens, les historiennes les plus féministes inclinent évidemment aujourd'hui à penser que c'est un mythe, c'est une construction de la mythologie. Mais cette construction de la mythologie, elle exprime la peur que les hommes auraient si les femmes prenaient le pouvoir, puisqu'enfin, les Amazones qui guerroient et qui font la guerre, ce sont des femmes au sein coupé, dont la féminité est abolie en quelque sorte, et qui sont par conséquent la peur de la perte de l'autre que l'on pourrait avoir si aux yeux des hommes les femmes prenaient le pouvoir. Donc votre question infiniment riche et complexe m'amène à parler beaucoup et je m'arrête.
Une question tout en haut de l'amphithéâtre.
Oui, bonjour madame. Je vous remercie tout d'abord pour votre exposé qui par ailleurs a été donné par une femme.
Alors, qui sait
Alors, dans vos propos, vous avez évoqué, ou plutôt cité, des chiffres, c'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, il y aurait 16% de maîtres de conférences qui seraient des femmes, environ 33% des professeurs qui seraient
non,
des femmes.
Contraire.
Bon, d'accord. Ah, bon, ceci est très positif, car ça signifie que les femmes ont leur place dans l'enseignement aussi, et qu'elles ont obtenu un nouveau rôle dans l'espace public. Par ailleurs, vous avez souligné le fait qu'il y avait encore beaucoup à faire quant à la parité, la notion de parité. Alors, ce qui m'a semblé, c'est que la notion de parité, pour vous, était un but. Alors que, bon, est-ce que parité signifierait égalité entre l'homme et la femme, véritablement ? Et parce que pour moi, l'égalité ne veut pas dire parité, mais égal accès ou bien égalité des chances quant à l'accès dans certaines professions, dans certaines activités. Et je ne pense pas qu'il faille s'attacher tant à cette notion.
Voilà. D'accord. Alors d'abord sur l'enseignement. Dans le domaine de l'enseignement, il faut renverser les pourcentages que vous avez donnés. Hein. Il y a à l'heure actuelle à peu près un tiers de femmes maîtres de conférences, mais oui, j'ai donné le chiffre tout à l'heure, un petit peu plus de 10% de femmes professeurs, 12% je crois, avec de grandes inégalités, il ne faut pas l'oublier, selon les disciplines. Il y a plus de femmes dans les sciences sociales et humaines et beaucoup moins dans ce qu'on appelle les sciences dures. En biologie, par contre, il y en a pas mal. Ce sont des partages extrêmement subtils, mais très intéressants à étudier, parce qu'ils révèlent toujours, justement, une représentation de ce qu'est la masculinité et la féminité. pas, autour des maths, autour de la physique, autour des techniques, autour de l'ingénierie, etc. etc. Il y a des partages absolument incroyables, absolument extraordinaires, et qui montrent qu'on n'est pas sorti encore de la division symbolique des rôles masculins et féminins. Alors, la parité, qu'est-ce que c'est ? La parité, c'est d'abord une mesure politique forte pour régler un problème tout de même assez évident, qui est que la société civile en France est toute chose égale, plus égalitaire entre les hommes et les femmes que le monde politique. Les femmes ont plus progressé dans le privé, dans le travail. À l'heure actuelle, il n'y a que 8 points qui séparent le taux d'activité global des femmes de celui des hommes. C'est tout à fait important. Et au passage, je signale que la France est le deuxième pays en Europe pour cela, juste après le Danemark et à peu près à égalité. Donc la société civile a progressé vers une plus grande parité entre les hommes et les femmes, mais pas la société politique. Après les dernières élections, c'est des choses que vous savez par cœur, 10% seulement de femmes au Parlement. Quand une femme arrive au Parlement, une femme politique, elle a, théoriquement, s'ils sont là, 90% d'hommes devant elle, quand même. Et la parité est d'abord une tente. Il aurait mieux valu qu'on ne recourt pas à la parité, ça aurait été bien meilleur signe. Recourir à la loi, c'est toujours un signe de faiblesse. Et il vaut beaucoup mieux que les mœurs évoluent sans la loi, ça c'est clair. Et bien sûr, mais la loi, elle est faite pour corriger les mœurs, et en l'occurrence, elle essaie de les corriger. Maintenant, à côté de cette parité politique qui est une mesure donc forte et circonscrite, il y a un idéal de la parité qui est un idéal qui recouvre l'égalité dont vous venez de parler, mais en lui donnant peut-être une couleur, j'allais dire utopique, utopique pour moi, au meilleur sens du terme, parce que je pense que nous avons besoin d'utopie, c'est-à-dire que nous avons besoin de grands projets pour le futur, qui soient pour nous des objectifs et qui nous aident à sortir de la reproduction des schémas éternels. Or, l'idée d'une parité, c'est-à-dire d'un partage, de nouveaux partages à tous les niveaux, on a évoqué le sacré, où la parité n'est pas du tout réalisée. On pourrait parler du domestique, de cette vie quotidienne où les femmes continuent à assumer les trois quarts des tâches, notamment par le soin aux enfants. Toutes ces choses pourraient être mieux partagées. Il pourrait d'ailleurs y avoir des métiers qui sont aujourd'hui excessivement féminins. Est-il normal, et là on retrouve un des problèmes que monsieur posait tout à l'heure, que les enfants soient au niveau du jardin d'enfants élevés uniquement par des femmes? Pourquoi n'y aurait-il pas des hommes dans les jardins d'enfants? Pourquoi est-ce que les deux sexes-là ne seraient pas, je ne dis pas à parité, mais dans une plus grande égalité? Par conséquent, voilà comment moi je conçois la parité.
Dernière question ici, sur le côté.
Oui, ma question concernait la parité et je me demandais qu'est-ce qui résistait tant à la parité, sinon les systèmes de défense masculins qui font que, en réalité, le système politique français est basé sur des partis politiques qui fonctionnent en masculin, en fait, en déclinaison complètement masculine. Je prends un exemple concret. Qu'est-ce qui fait que, pour entrer dans un système politique et progresser, y faire carrière et arriver à un niveau intéressant de la société, pourquoi est-ce que les femmes sont prises dans les tâches ménagères et d'éducation des enfants? C'est ce qu'on constate dans les conseils municipaux des communes. Dans les conseils municipaux des communes, qu'est-ce que vous avez? Il n'y a pas de femme de 30, 40 ans qui va pouvoir positionner une carrière politique parce qu'elle est prise dans l'éducation des enfants, alors que les hommes, eux, peuvent prendre place s'ils ont une fonction publique. S'ils sont dans le privé, c'est beaucoup plus compliqué pour eux aussi. Donc il y a l'organisation du système politique français qui fait que peut-être là est la plus grande résistance à la véritable parité. La parité, pour moi, c'est une question qui ne devrait pas se poser, parce que quand j'ai entendu parler de tous les discours des hommes politiques qui ont pris du Sénat, je me suis dit, mais enfin, est-ce que nous sommes d'une espèce différente pour se poser cette question?
Voilà.
Et justement, à cette question, il y a peut-être des travaux qui peuvent apporter, qui sont intéressants. Ce sont les travaux de la chaire de psychologie du travail avec Christophe Dejour sur justement les systèmes de défense masculins. Voilà, merci.
Merci.
Oui, absolument. Alors, les partis politiques sont ce qu'ils sont, mais dans un régime démocratique, dans l'instant T, je ne vois pas comment s'en passer. Hein, bon, bien. Ceci dit, c'est les partis politiques eux-mêmes qu'il faut évidemment arriver à changer, hein, ça c'est certain. Changer, c'est là que la loi intervient, que c'est un peu dommage qu'on dise aux partis politiques, si vous n'avez pas tant de femmes, vous serez pénalisés sur le plan financier. Moi je suis la première à le regretter, mais c'est ainsi. Alors je pense que progressivement... je pense que malgré tout, même si on a des difficultés, les femmes vont être plus nombreuses. On voit bien que tous les partis, qu'ils soient de gauche ou de droite, sont en train tout de même de faire un effort qui n'aboutira peut-être pas à une parité arithmétique, mais qui arrivera à un rééquilibrage relativement important. Et à partir du moment où les femmes seront plus nombreuses, les choses commenceront quand même à changer. Parce que quand il y a peu de femmes, elles sont forcément obligées de se couler dans le moule masculin, un petit peu, c'est pas ? Elles sont obligées de faire des compromis, de se faire admettre, et elles ne sont pas forcément féministes d'ailleurs, pas toujours, je ne dis pas ça pour les femmes du gouvernement actuellement, qui sont quand même de belles images de femmes en politique. Et voilà, alors, d'autre part, sur le plan, vous avez touché à un problème très important, auquel j'avais d'ailleurs fait allusion aussi, qui est évidemment le problème du domestique et du privé. Ça, il est certain que ce domaine-là est un de ceux qui a le moins bougé. Les sociologues de la famille, je pense aux travaux de François de Saint-Gly, par exemple, je pense à d'autres travaux sur le travail ménager, là le nom m'échappe, mais très très connu, Kaufmann, voilà, les travaux de Kaufmann, qui est certainement bien, bien connu de plusieurs d'entre vous. Ces hommes-là ont fait des études passionnantes et ils montrent que en 10-15 ans, les fameux budgets de temps, vous savez, on a étudié les budgets de temps, eh bien, ça n'a bougé que de 2 à 3%. Hein. Les hommes ne font que 2 ou 3% de plus dans le domaine des travaux domestiques. Oui, alors là, il y a quelque chose qui résiste. Et probablement, ce quelque chose qui résiste tient encore au niveau symbolique de la représentation. La virilité masculine a du mal, et peut-être c'est plus répandu dans les classes populaires, dans le fond, que dans et aux deux extrémités, parce que je pense qu'un grand PDG ou un patron de banque, il ne s'occupe pas beaucoup de la maison, de la famille, hein, ça, je crois que c'est sa femme qui doit faire un peu tout. Je pense que là où, dans les milieux classe moyenne intellectuelle, c'est là où il y a des meilleurs. Ça bouge, il y a des meilleurs partages. Mais aux deux extrémités, c'est très difficile. Parce que la virilité, pour un homme, c'est certainement pas balayer, c'est pas passer l'aspirateur, il y a quelque chose qui demeure à leurs yeux humiliant. Et donc, il y a le symbolique qui est là, et là, on n'en a pas fini avec ça. Autrement dit, nous avons une histoire, nous, les femmes, et le genre en tant que rapport de sexe, mais nous n'en avons pas fini avec l'histoire. Autrement dit, dire que l'histoire est finie, eh bien ça, moi, j'y crois pas du tout. Et je pense que Fukuyama se trompait sur ce point aussi.
Michel Perrou, merci.